Je n'ai tué personne. Chacun est tombé en suivant son destin à cause de ses péchés. Moi, je n'ai été qu'un instrument. Hier, tu as dit que Judas aussi fut un instrument. Cela n'empêche pas qu'il a été condamné. J'accepte le risque de la damnation. Le Seigneur m'absoudra car il sait que j'ai agi pour sa gloire. Mon devoir était de protéger la bibliothèque. Il n'y a qu'un instant, tu étais prêt à me tuer, moi aussi, et même ce garçon. Tu es plus subtil, mais pas meilleur que les autres. Et à présent, qu'adviendra-t-il ? À présent que j'ai éventé le piège ?
Nous verrons, répondit Rollré. Je ne veux pas nécessairement ta mort. Peut-être réussirai-je à te convaincre. Mais dis-moi d'abord, comment as-tu deviné qu'il s'agissait du deuxième livre d'Aristote ?
Tes anathèmes contre le rire ne m'auraient certes pas suffi, ni le peu que j'ai appris sur la discussion que tu as eue avec les autres. J'ai été aidé par quelques notes laissées par Venantius. Je ne comprenais pas à première vue ce qu'elle voulait dire. Mais il y avait certaines références à une pierre éhontée qui roule à travers la plaine, aux cigales qui chanteront sous la terre, aux vénérables figuiers. J'avais déjà lu quelque chose de ce genre. J'ai contrôlé ces jours-ci. Ce sont des exemples qu'Aristote donnait déjà dans son premier livre de la poétique et dans la rhétorique. Je me suis rappelé ensuite qu'Isidore de Séville définit la comédie comme quelque chose qui raconte « Stupra virginum et amores meretricum ». Peu à peu s'est dessiné dans mon esprit ce second livre comme il aurait dû être. Je pourrais te le raconter presque tout entier, sans lire les pages qui devraient m'envenimer. La comédie naît dans les comailles, autrement dit dans les villages des paysans, comme célébration badine après un repas ou une fête. Elle ne parle pas des hommes fameux et puissants, mais d'êtres vils et ridicules. Pas méchants cependant, et elle ne finit pas par la mort des protagonistes. Elle atteint l'effet de ridicule en montrant, chez les hommes communs, les défauts et les vices. Ici, Aristote voit la disposition au rire comme une force positive qui peut même avoir valeur cognitive lorsqu'à travers des énigmes subtiles et des métaphores inattendues, tout en nous montrant les choses différentes de ce qu'elles sont, comme si elles mentaient, elle nous oblige en fait à les mieux observer et nous porte à dire « Voilà, il en allait vraiment ainsi et moi, je ne le savais pas ». La vérité atteinte à travers la représentation des hommes et du monde, pire que ce qu'ils sont, ou que nous les croyons, pire en tout cas que nous les voyons, tels que les poèmes héroïques, les tragédies, les vies des saints nous les ont représentés. Est-ce bien ainsi ?
Pas mal. Tu l'as reconstitué en lisant d'autres livres ?
Sur nombre desquels travaillait Venantius. Je crois que Venantius était depuis beau temps à la recherche de ce livre. Il a dû lire dans le catalogue les indications que j'ai lues moi aussi et avoir acquis la conviction que c'était bien là le livre qu'il cherchait. Mais il ne savait comment entrer dans le Finis Africae. Quand il a entendu Béranger en parler à Adelme, alors il s'est lancé comme le chien sur la piste du lièvre.
« Il en alla bien ainsi, je m'en rendis compte tout de suite. Compris que le moment était venu, qu'il me faudrait défendre la bibliothèque avec les dents. »
Et tu as appliqué Longan. Cela n'a pas dû être facile pour toi, dans le noir.
Désormais, mes mains y voient mieux que tes yeux. Je lui avais soustrait aussi un pinceau à Séverin. Et moi aussi, je me suis servi de gants. Ce fut une belle idée, n'est-ce pas ? Tu as mis du temps pour y arriver.
Oui. Je pensais à un mécanisme plus complexe, à un croc empoisonné ou à quelque chose de ce genre. Je dois dire que ta solution était exemplaire. La victime s'empoisonnait toute seule, et précisément dans la mesure où elle voulait lire. Non sans frémir, je m'aperçus qu'en ce moment, ces deux hommes, s'affrontant en un combat mortel, s'admiraient à tour de rôle, comme si chacun d'eux n'avait agi que pour obtenir les félicitations de l'autre. Mon esprit fut traversé par la pensée que les arts déployés par Béranger pour séduire Adelme et les gestes simples et naturels par lesquels la jeune fille avait suscité ma passion et mon désir n'étaient rien quant à la ruse et à l'habileté forcenée dans la conquête de l'autre en face de cette séduction réciproque qui avait lieu sous mes yeux à l'instant et qui s'était déroulée 7 jours durant, chacun des deux interlocuteurs donnant, pour ainsi dire, de mystérieux rendez-vous à l'autre, chacun aspirant secrètement à l'approbation de l'autre, qu'il redoutait et haïssait. Mais à présent, dis-moi, disait Guillaume, pourquoi ? Pourquoi as-tu voulu protéger ce livre plus que tant d'autres ? Tu cachais, mais pas au prix du crime, des traités de nécromancie, des pages où l'on blasphème, peut-être le nom de Dieu. Mais pourquoi, pour ces pages, as-tu damné tes frères et t'es-tu damné toi-même ? Il y a tant d'autres livres qui parlent de la comédie, tant d'autres encore qui contiennent l'éloge du rire. Pourquoi celui-ci t'inspirait-il tant d'épouvante ?
Parce qu'il était du philosophe. Chacun des livres de cet homme a détruit une partie de la science que la chrétienté avait accumulée tout au long des siècles. Les pères nous avaient transmis ce qu'il fallait savoir sur la puissance du Verbe. Il a suffi que Boèce commentât le philosophe pour que le mystère divin du Verbe se transformât en la parodie humaine des catégories et du syllogisme. Le livre de la Genèse dit ce qu'il faut savoir sur la composition du cosmos, et il a suffi qu'on redécouvrit les livres de physique du philosophe pour que l'univers fût repensé en termes de matière sourde et visqueuse, et pour que l'arabe Averroès fut à deux doigts de convaincre tout le monde de l'éternité du monde. Nous savions tout sur les noms divins, et le dominicain enseveli par Abbon, séduit par le philosophe, les a renommés en suivant les saintes orgueilleuses de la raison naturelle. Ainsi le cosmos, qui pour l'aréopagite se manifestait à qui savait regarder en haut la cascade lumineuse de la cause première exemplaire, est devenu une réserve d'indices terrestres, d'où on remonte pour nommer une abstraite cause efficiente. Avant, nous regardions vers le ciel, daignant jeter un regard courroucé à la boue de la matière. Maintenant, nous regardons vers la terre, et nous croyons au ciel sur le témoignage de la terre. Chaque mot du philosophe, sur qui désormais jurent même les saints et les souverains pontifes, a renversé l'image du monde. Mais il n'est pas allé jusqu'à renverser l'image de Dieu. Si ce livre était devenu matière de libre interprétation, nous aurions franchi la dernière limite.
Mais qu'est-ce qui t'a fait peur dans ce discours sur le rire ? Tu n'élimines pas le rire en éliminant ce livre.
Non, certes. Le rire est la faiblesse, la corruption, la fadeur de notre chair. C'est la musette pour le paysan, la licence pour l'ivrogne. Même l'Église, dans sa sagesse, a accordé le moment de la fête, du carnaval, de la foire. Cette pollution diurne qui décharge les humeurs et entrave d'autres désirs et d'autres ambitions. Mais ainsi, le rire reste vile chose, défense pour les simples, mystère déconsacré pour la plèbe. L'apôtre même le disait, « Plutôt que de brûler, mariez-vous. Plutôt que de vous rebeller contre l'ordre voulu par Dieu, riez et amusez-vous de vos immondes parodies de l'ordre à la fin du repas, après avoir vidé les cruches et les fiasques. Élisez le roi des folles, perdez-vous dans la liturgie de l'âne et du cochon, jouez à représenter vos saturnales la tête en bas. Mais ici, ici !»
À présent, Rolleret frappait du doigt sur la table, près du livre que Guillaume tenait devant lui.
« Ici, on renverse la fonction du rire, on l'élève à un art, on lui ouvre les portes du monde des savants, on en fait un objet de philosophie et de perfide théologie. Tu as vu hier comment les simples peuvent concevoir et mettre en œuvre les plus troubles hérésies, méconnaissant et les lois de Dieu et les lois de la nature. Mais l'Église peut supporter l'hérésie des simples, lesquels se condamnent eux-mêmes, ruinés par leur ignorance. L'inculte folie de Dolcino et de ses pères ne mettra jamais en crise l'ordre divin. Il prêchera la violence et mourra dans la violence. Il ne laissera point de traces. Il se consumera ainsi que se consume le carnaval. Et peu importe si, au cours de la fête, se sera produite sur la terre, et pour un temps compté, l'épiphanie du monde à l'envers. Il suffit que le geste ne se transforme pas en dessin, que cette langue vulgaire n'en trouve pas une latine qui la traduise. Le rire libère le vilain de la peur du diable, parce que, à la fête des folles, le diable même apparaît pauvre et folle, donc contrôlable. Mais ce livre pourrait enseigner que se libérer de la peur du diable est sapience. quand il rit, tandis que le vin gargouille dans sa gorge, le vilain se sent le maître, car il a renversé les rapports de domination. Mais ce livre pourrait enseigner au docte les artifices subtils, et à partir de ce moment-là illustre, par lesquels légitimer le bouleversement. Alors ce qui, dans le geste du vilain, est encore et heureusement opération du ventre, se changerait en opération de l'intellect. Que le rire soit le propre de l'homme est le signe de nos limites de pécheur. Mais combien d'esprits corrompus comme le tien tireraient de ce livre l'extrême syllogisme, selon quoi le rire est le but de l'homme ? Le rire distrait, quelques instants, le vilain de la peur. Mais la loi s'impose à travers la peur, dont le vrai nom est crainte de Dieu. Et de ce livre pourrait partir l'étincelle luciférienne qui allumerait dans le monde entier un nouvel incendie. Et on désignerait le rire comme l'art nouveau, inconnu même de Prométhée, qui anéantit la peur. Au moment où il rit, peu importe au vilain de mourir, mais après, quand prend fin la licence, la liturgie lui impose de nouveau, suivant le dessein divin, la peur de la mort. Et de ce livre pourrait naître la nouvelle et destructive aspiration à détruire la mort à travers l'affranchissement de la peur. Que serions-nous, nous, créatures pécheresses sans la peur, peut-être le plus sage et le plus affectueux des dons divins ? Pendant des siècles, les docteurs et les pères ont répandu d'embaumantes essences de saint savoir pour racheter, à travers la pensée de ce qui est élevé, la misère et la tentation de ce qui est bas. Et ce livre, en justifiant la comédie comme miraculeuse médecine et la satire et le mime, qui produirait la purification des passions à travers la représentation du défaut, du vice, de la faiblesse, induirait les faux savants à tenter de racheter dans un diabolique renversement le haut à travers l'acceptation du bas. De ce livre découlerait la pensée que l'homme peut vouloir sur la terre, comme suggérait ton Bacon à propos de la magie naturelle, l'abondance même du pays de Cocagne. Mais c'est justement cela que nous ne devons ni ne pouvons avoir. Regarde les moignillons qui se dévergondent dans la parodie bouffonne de la Coena Cupriani. Quelle diabolique transfiguration de l'écriture sainte ! Et pourtant, tout en le faisant, ils savent que cela est mal. Mais le jour où la parole du philosophe justifierait les jeux marginaux de l'imagination déréglée, oh ! Alors vraiment, ce qui se trouvait en marge sauterait au centre, et du centre, on perdrait toute trace. Le peuple de Dieu se transformerait en une assemblée de monstres éructés des abîmes de la terre inconnue, et c'est alors que la périphérie de la terre connue deviendrait le cœur de l'empire chrétien, les arimaspes sur le trône de pierre, les blémis dans les monastères, les nains au gros ventre et à la tête gigantesque comme gardiens de la bibliothèque. Les serviteurs dicteront la loi. Nous, mais toi aussi à ce compte, nous obéirons à la vacance de toute loi. Un philosophe grec, que ton Aristote cite ici, complice et immonde Auctoritas, dit qu'on doit démanteler le sérieux de ses adversaires avec le rire et le rire adverse avec le sérieux. La prudence de nos pères a fait son choix. Si le rire est le plaisir de la plèbe, que la licence de la plèbe soit tenue en bride et humiliée et sévèrement menacée. Et la plèbe n'a pas d'armes pour affiner son rire jusqu'à le faire devenir instrument contre le sérieux des pasteurs qui doivent la conduire à la vie éternelle et la soustraire aux séductions du ventre, des pudendas, de la nourriture de ses sordides désirs. Mais si un jour quelqu'un, agitant les paroles du philosophe et donc parlant en philosophe, amenait l'art du rire à une forme d'arme subtile, si la rhétorique de la conviction se voyait remplacée par la rhétorique de la dérision, si la topique de la patiente et salvatrice construction des images de la rédemption se voyait remplacée par la topique de l'impatiente démolition et du bouleversement de toutes les images les plus saintes et vénérables, oh, ce jour-là, toi aussi, et toute ta science, Guillaume, vous serez mis en déroute.
Pourquoi ? Je me battrais, ma finesse d'esprit contre la finesse d'esprit d'autrui. Ce serait un monde meilleur que celui où le feu et le fer rougi de Bernard Guy humilient le feu et le fer rougi de Dolcino.
Dès lors, tu serais pris, toi aussi, dans la trame du démon. Tu combattrais de l'autre côté du camp de l'Armageddon, où devra avoir lieu l'engagement final. Mais pour ce jour, l'Église doit savoir imposer encore une fois la règle du conflit. Le blasphème ne nous fait pas peur, car même dans la malédiction de Dieu, nous reconnaissons l'image égarée de l'ire de Jéhovah qui maudit les anges rebelles. Elle ne nous fait pas peur. La violence de ceux qui tuent les pasteurs au nom de quelques fantaisies de renouvellement, car c'est la même violence que celle des princes qui cherchèrent à détruire le peuple d'Israël. Elles ne nous font pas peur, la rigueur du donatiste, la folie suicidaire du circoncellion, la luxure du bogomile, l'orgueilleuse pureté de l'albigeois, la soif de sang du flagellant, l'ivresse du mal chez le frère du libre-esprit. Nous les connaissons tous, et nous connaissons la racine de leur péché, qui est la racine même de notre sainteté. Ils ne nous font pas peur, et surtout nous savons comment les détruire. Mieux, comment les laisser se détruire tout seuls, en enflant avec arrogance jusqu'au zénith leur volonté de mort qui naît dans les abîmes même de leur nadir. Mieux encore, leur présence nous est précieuse. Elle s'inscrit dans le dessein de Dieu, car leur péché aiguillonne notre vertu, leur blasphème encourage notre chant de louange, leur pénitence déréglée règle notre goût du sacrifice, leur impiété fait resplendir notre piété, de même que le prince des ténèbres a été nécessaire, avec sa rébellion et sa désespérance, au plus grand éclat de la gloire de Dieu, principe et fin de toute espérance. Pourtant, si un jour, et non plus comme exception plébéienne, mais comme ascèse du docte, confié au témoignage indestructible de l'Écriture, l'art de la dérision se faisait acceptable et apparaissait noble et libéral, et non plus mécanique, si un jour quelqu'un pouvait dire et être entendu « Moi, je ris de l'incarnation », alors nous n'aurions point d'armes pour arrêter ce blasphème, parce qu'il rassemblerait les forces obscures de la matière corporelle, celle qui s'affirme dans le paix et dans l'euro, et l'euro et le paix s'arrogeraient le droit qui n'appartient qu'à l'esprit de souffler où il veut. » Lycurgue avait fait élever une statue au rire. Tu l'as lu dans le libelle de Cloritius, qui tenta d'absoudre les mimes de l'accusation d'impiété, et où l'on raconte comment un malade fut guéri par un médecin qui l'avait aidé à rire. Pourquoi fallait-il le guérir si Dieu avait établi que sa journée terrestre avait touché son terme? Je ne crois pas qu'il l'ait guéri du mal. Il lui a appris à rire du mal. On n'exorcise pas le mal, on le détruit. Avec le corps du malade. Si cela est nécessaire. Tuez le diable, dit alors Guillaume. Jorge parut ne pas comprendre. S'il avait pu voir, il aurait fixé son interlocuteur d'un regard étonné.
« Moi ? » dit-il.
« Oui, on t'a menti. Le diable n'est pas le principe de la matière. Le diable est l'arrogance de l'esprit, la foi sans sourire, la vérité qui n'est jamais effleurée par le doute. Le diable est sombre parce qu'il sait où il va, et allant, il va toujours d'où il est venu. Tu es le diable, et comme le diable, tu vis dans les ténèbres. » Si tu voulais me convaincre, tu n'as pas réussi. Je te hais, Rolleré. Et si je pouvais, je te mènerais en bas, sur le plateau, nu, avec des plumes de volatiles enfilées dans le trou du cul, et la face peinte comme un jongleur et un bouffon, pour que tout le monastère rie de toi et n'ait plus peur. J'aimerais te couvrir de miel et puis te rouler dans les plumes, et te mener à la laisse dans les foires, pour dire à tout le monde, « Voilà celui qui vous annonçait la vérité et vous disait que la vérité a le goût de la mort, et vous ?» Vous ne croyez pas en sa parole, mais bien en sa triste figure. Et maintenant, moi, je vous le dis, dans l'infini vertige des possibles, Dieu consent même que vous imaginiez un monde où l'interprète présumé de la vérité ne serait autre qu'un merle gauche qui répète des mots appris depuis une éternité.
« Toi, tu es pire que le diable, minorite !» dit alors Jorge. « Tu es un baladin comme le saint qui a accouché de vous. » Tu es comme ton François, qui, des toto corpore fecerat linguam, qui tenait des sermons en donnant des spectacles comme les saltimbanques, qui confondait l'avare en lui glissant dans la main une pièce d'or. qui humiliait la dévotion des religieuses en récitant le miserere au lieu de prêcher, qui mendiait en français, qui se déguisait en vagabond pour confondre les frères gloutons, qui se jetait nu sur la neige, parlait avec les animaux et transformait le mystère même de la nativité en spectacle villageois, invoquait l'agneau de Bethléem en contrefaisant le bêlement de la brebis. Ce fut une bonne école. N'était-il pas Minorite, ce frère, Dieu te sauve de Florence ?
Si, sourit Guillaume. Celui qui se rendit au couvent des prêcheurs et dit qu'il n'accepterait de nourriture si d'abord on ne lui donnait un morceau de la tunique de frère Jean, pour le conserver comme relique, et quand il l'eut, il s'en nettoya le derrière et le jeta dans le fumier, et à l'aide d'une perche, il le roulait au fond de la mer en criant « Hélas ! Aidez-moi, mes frères, parce que j'ai perdu dans la fosse d'aisance les reliques du saint !»
Elle t'amuse, cette histoire, me semble-t-il.
Sans doute voudras-tu me raconter aussi celle de l'autre Minorite, frère Paul Millemouche, qui un jour est tombé de tout son long sur la glace, et ses concitoyens le moquaient, et l'un d'eux lui demanda s'il n'aurait pas voulu quelque chose de mieux à se mettre sous lui, et l'autre répondit
« Si, ta femme.
Ainsi cherchez-vous la vérité. » Ainsi François enseignait aux gens à regarder les choses sous un autre angle.
« Mais nous vous avons disciplinés. Tu les as vus hier, tes frères. Ils sont entrés dans nos rangs. Ils ne parlent plus comme les simples. Les simples ne doivent pas parler. Ce livre eût justifié l'idée que la langue des simples est porteuse d'une certaine sagesse. C'est ce qu'il fallait empêcher. C'est ce que j'ai fait. Tu dis que je suis le diable. Ce n'est pas vrai. J'ai été la main de Dieu. »
La main de Dieu crée. Elle ne cache pas.
Il est des bornes qu'il n'est pas permis de passer. Dieu a voulu que dans certains parchemins fût écrit « Hic sunt leones ».
Dieu a créé même les monstres,
même toi.
Et il veut que l'on parle de tout. Jorge allongea ses mains tremblotantes et tira le livre à lui. Il le tenait ouvert, mais à l'envers, de façon que Guillaume continua à le voir à l'endroit.
« Alors pourquoi, dit-il, a-t-il permis que ce texte fût perdu pendant tant de siècles et qu'on en sauva un seul exemplaire, que la copie de cet exemplaire, finie qui sait où, demeura ensevelie des années durant dans les mains d'un infidèle qui ne savait pas le grec et puis fut laissé à l'abandon dans le réduit d'une vieille bibliothèque où moi, et pas toi, je fus appelé par la Providence pour la trouver et l'emporter avec moi ?» et l'a caché pendant d'autres années encore. Moi, je sais. Je sais comme si je le voyais écrit en lettres de diamant, avec mes yeux qui voient ce que tu ne vois pas. Moi, je sais que telle était la volonté du Seigneur, selon quoi j'ai agi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.